Ok, donc we are live.
Amazing.
Bienvenue tout le monde, vous êtes en train d'écouter la radio Mousse, donc sur mousseradio.com. Et juste pour vous dire, on change d'heure, enfin d'horaire chaque semaine. Donc faut vérifier ça sur notre site internet, donc mousseradio.com, où vous êtes en train d'écouter en ce moment, ou plus tard dans les archives. Et si vous voulez nous envoyer un email, vous pouvez nous envoyer un email à mousseradio@proton.me. Proton, c'est T-R-O-T-O-N. Est-ce que la fenêtre, elle fait beaucoup de bruit ou pas?
La tienne? Non, pas du tout. Okay. La mienne? Et la mienne?
Non.
Ok.
Ok. Sinon, vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur mousseradio.nyc. Ou alors, faire un petit chat sur le site internet. J'ai changé le truc du site hier, parce que je voyais que les gens étaient très confused par rapport à où était le chat. Apparemment, les gens étaient en train d'essayer d'appuyer sur le logo à la place. Donc, j'ai changé l'icône de voix. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Si vous voulez aller voir...
Je le vois toujours comme avant, par contre.
Le chat. Ah bon?
Oui.
Bah, pas moi. C'est bizarre.
Bon, bah, tant mieux.
Bah, il est où le chat pour toi?
Genre à la fin, tu sais, comme avant.
Bah oui, non, mais avant c'était. Oui, mais tu vois, le chat, maintenant c'est à la place du logo.
Ah, avant c'était le contraire. Ah oui, ouais. C'est vrai, je me souviens. Ouais,
okay. Toi, tu me fais peur comme ça.
Écoute.
Donc voilà, comment c'est vas-tu?
Écoute, je vais bien. Et d'ailleurs, présentons-nous. Que dit-on? Déjà, nous sommes sûrs. La radio Mousse, mais non seulement ça, je suis DJ Poisson je suis très fière. À la base, j'étais DJ Poisson Pané, mais maintenant c'est DJ Poisson.
Bon, le Pané, il est parti.
Ouais, c'est juste Poisson.
Le Poisson est cru maintenant.
Le Poisson est cru, si je suis un peu en sushi.
Et moi, c'est DJ Pro.
Avec. Oh là là là, c'est incroyable. Regardez-moi cette fusion.
C'est vraiment gênant parce qu'en fait, sur mon truc, t'es genre. Alors, enfin, tu sais, t'es.
Ah putain, oui, c'est vrai.
Comme ça.
Vas-y, je me remets comme ça, c'est mieux là.
Ouais, merci. Ouais, comme ça, genre. Ok. Mais donc, vous êtes en train d'écouter aujourd'hui notre version du discours sur le colonialisme de Césaire. Notre audio.
Et quelle version?
Et quelle version?
Pas des moindres.
Et vraiment, on a lu la première partie la semaine dernière. Et donc, maintenant, on va vous lire la deuxième partie, donc de 4 à 6.
Exactement.
J'avoue que les premières pages de cette partie sont comment dire, compliquées. Elles sont compliquées.
Elles sont violentes.
Elles sont violentes, pour la lecture surtout. Et donc, on va sûrement perdre nos mots.
Oui.
Trois pages.
Et donc, mais bon, si vous nous avez déjà suivi, vous ne serez pas trop choqués, quoi.
Mm-hmm. Exactement. Est-ce que tu as partagé avec tes connexions francophones?
Mais avec mes connexions francophones, vas-y. Je fais donc de ce pas. Je le fais de ce pas, mon ami. Mon ami DJ Croc. Je le fais de ce pas.
Voilà, moi je vais bien. Personne m'a demandé. Mais c'est pas grave.
Personne t'a demandé en effet.
Mais attends,
tu as participé ce week-end à la booming scène locale musicale et ça c'est important ça.
Ouais, j'en ai parlé peu un show hier aussi.
Ah sérieux?
Mais vraiment c'était magique honnêtement, c'était juste magique. Il y avait des énormes comment on dit puppets, des marionnettes.
Ouais, des marionnettes.
Mais genre c'était pas des marionnettes, enfin c'était des énormes têtes de loup, des lunes énormes peintes, enfin avec des ballons, ouais. C'était dingue.
Ah c'est trop fun, j'adore les petites mises en scène et tout comme ça. Exactement. C'est vraiment très sympa.
Donc voilà.
Bon, j'ai été dans le sud récemment, donc vous étonnez pas si je fais le.
Non s'il te plaît, on va éviter. On va éviter. Je pense que c'est bon.
Ça marche.
Césaire en accent du sud, s'il te plaît.
Donc, camarades, nous serons ennemis. de manière haute, lucide et conséquente.
Non,
s'il te plaît. Ok, c'est drôle.
Bon, par contre, je peux commencer du coup, comme tu l'as.
Et bah, du coup, je commence. Donc, camarades, te seront. Alors, attends, peut-être qu'on devrait faire un petit récap. Donc, petit récap de ce qu'on avait vu la semaine dernière.
C'est vrai que c'était.
C'était la semaine dernière, quoi.
Non, mais en fait, il faut dire que, du coup, César argumente que donc, l'Europe est indéfendable. En termes de d'actes coloniaux et de la manière dont les formes, enfin, dont la civilisation se forme sur la colonisation, quoi. Mais qu'aussi, donc toutes les, enfin, que pratiquement tout le monde a, enfin, joue un rôle là-dedans, quoi. Et quand, enfin, attends. Oui, qu'en fait, la colonisation, du coup. Enfin, il parle d'ensauvagement du continent européen à travers la colonisation, puisque le colon va du coup se déshumaniser pratiquement même avec les actes qu'il commet.
Ouais.
Et donc, mais enfin, sans s'en rendre compte, du coup, lui-même, il perd sa moralité et tout. Ouais, je pense à ça.
Et aussi que la colonisation. C'est pas forcément le premier, mais c'est un symptôme d'une civilisation défaillante. C'est une civilisation qui est déjà en train de faillir, une civilisation qui commet ce genre d'actes. Voilà, il n'est pas très fan de la colonisation, hein, le poteau. Hein, comme on dirait.
On dirait qu'il n'est pas très fan.
On dirait qu'il n'est pas fan.
Mais voilà, il parle d'abus et de. Enfin, tu vois, il dit que les gens lui parlent de tyrans locaux, par exemple. De la manière dont l'Union européenne apporte le développement aux pays colonisés. Mais donc, justement, lui, il parle du fait que, en fait, la majorité du temps, le développement qui est voulu par le pays colonisé, mais ensuite même pas, enfin, tu vois, l'Europe ne l'aide pas avec ça.
Oui, c'est ça,
En fait, donc, et enfin, appuyer les pays colonisés et tout. Et donc, en fait, l'Europe,
récolte les fruits de la violence qu'elle a semée et exploite les terres colonisées pendant que les terres colonisées en question, elles souffrent du manque d'infrastructures, du manque de gouvernement mis en place suite au passage des Français, par exemple. Et donc, la première partie du texte, en tout cas, parle surtout des exemples, on va dire, coloniaux français. Elle parle du Vietnam, elle parle du Cambodge, enfin bref, différentes régions et pas seulement l'Afrique, par exemple. Enfin bref, c'est tout un tas de régions.
Ouais.
Citées en tant qu'exemple.
Voilà.
Et puis, pour contexte aussi, donc ce texte est écrit, je crois, alors en 1950, il me semble. Ouais, 50, on avait regardé la dernière fois. Donc juste pour, enfin voilà, ça remet un peu de contexte, on va dire. Voilà.
Bah, quel contexte, tu vois, enfin, faut dire ce qui se passe.
Contexte, bah oui, pardon. Pour eux, c'est enfin genre d'après-guerre, de colonisation, enfin de décolonisation, le processus de décolonisation qui est clairement ongoing, on va dire, qui a très peu de, enfin, il y a pas toutes les colonies françaises qui sont indépendantes à ce moment-là, mais beaucoup le deviennent dans la décennie.
Il y a des défaites françaises, enfin, en Indochine et tout. Quoi.
Oui, oui, tu as un empire français d'ailleurs, il en parle de l'empire français qui est beaucoup, enfin qui est affaibli, quoi. Voilà, voilà. Donc, si tu n'as rien d'autre à ajouter,
je pense que c'était très bien. Je pense que c'était très
magnifique, très simple, très complet, incroyable. Exactement. Bon, donc partie 4. Donc, camarades, te seront ennemis de manière haute, lucide et conséquente. Non seulement gouverneur sadique et préfet tortionnaire, non seulement colon flagellant et banquier goulu, non seulement macroteur, policier, lèche-chec et magistrat aux ordres, mais pareillement et au même titre journaliste fielleux, académicien goitreux, endolardé de sottises, ethnographe, métaphysicien et dogoneux, théologien farfelu et belge. Mal perdu. Intellectuel jaspineux, sorti tout puant de la cuisse de Nietzsche, ou futé calendrier fils de roi, dont ne sait quelle pléiade, les paternalistes, les embrasseurs, les corrupteurs, les donneurs de tapes dans le dos, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues agrariens, les endormeurs, les mystificateurs, les haveurs, les matagraboliseurs, et d'une manière générale, tous ceux qui, jouant leur rôle dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise, tentant de manière diverse et par diversion infâme de désagréger les forces du progrès, quitte à nier la possibilité même du progrès. Tout suppôt du capitalisme, tout tenant déclaré ou honteux du colonialisme pillard, tous responsables, tous haïssables, tous négriers, tous redevables désormais de l'agressivité révolutionnaire. Et balayez-moi tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs de subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, tous les manieurs de charabia. Et n'essaye pas de savoir si ces messieurs sont personnellement de bonne ou mauvaise foi, s'ils sont personnellement bien ou mal intentionnés, s'ils sont personnellement, c'est-à-dire dans leur conscience intime de Pierre ou Paul, colonialistes ou non, l'essentiel étant que leur très aléatoire bonne foi subjective est sans rapport aucun avec la portée objective et sociale de la mauvaise besogne qu'ils font chien de garde du colonialisme. Et dans cet ordre d'idées, je cite, à titre d'exemple, pris à dessein dans des disciplines très différentes, premièrement, De Gourou, son livre, Les pays tropicaux, où, parmi des vues justes, la thèse fondamentale s'exprime partiale, irrecevable, qu'il n'y a jamais eu de grande civilisation tropicale, qu'il n'y a eu de civilisation grande que de climat tempéré, que, dans tout pays tropical, le germe de la civilisation vient et ne peut venir que d'un ailleurs extratropical, et sur les pays tropicaux pèse, à défaut de la malédiction biologique des racistes, du moins avec les mêmes conséquences, une non moins efficace malédiction géographique.
Ça, c'était vraiment quelque chose.
C'était intéressant.
Du BP Temples, missionnaire et belge. Pardon. Sa philosophie bantou, vaseuse et méphitique à souhait, mais découverte de manière très opportune, comme par d'autres l'hindouisme, pour faire pièce au matérialisme communiste qui menace, paraît-il, de faire des noirs des vagabonds moraux. Des historiens ou des romanciers, donc c'est genre une liste, enfin c'est un autre bon point. Des historiens ou des romanciers de la civilisation, c'est tout un, nom de tel ou tel, de tous ou presque. De tous ou presque, leur fausse objectivité, leur chauvinisme, leur racisme sournois, leur vicieuse passion à dénier aux races non blanches, singulièrement aux races mélaniennes, tout mérite, leur monomanie à monopoliser au profit de la leur toute gloire. Et donc c'est des phrases, mais... Les psychologues, sociologues, etc., leur vue sur le primitivisme, leurs investigations dirigées, leur généralisation intéressée, leur spéculation tendancieuse, leur insistance sur le caractère en marge, le caractère à part des non-blancs, leur reniement pour les besoins de la cause, dans le temps même où chacun de ces messieurs se réclame pour accuser de plus haut l'infirmité de la pensée primitive, du rationalisme le plus ferme, leur reniement barbare de la phrase de Descartes, charte de l'universalisme, que la raison est tout entière en chacun et qu'il n'y a du plus ou du moins qu'entre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Mais n'allons pas trop vite, surtout. Il vaut la peine de suivre quelques-uns de ces messieurs. Je ne m'étendrai pas sur le cas des historiens, ni celui des historiens de la colonisation, ni celui des égyptologues, le cas des premiers étant trop évident, dans le cas des seconds, le mécanisme de leur mystification ayant été définitivement démonté par Chic Anta Diop dans son livre « Nation et agriculture », le plus audacieux qu'un noir ait jusqu'ici écrit et qui comptera n'en pas douter dans le réveil de l'Afrique. Jesus, ça se perd.
Oui. Revenons plutôt en arrière. A.M. Gourou, exactement. Ai-je besoin de dire que c'est de très haut que les mines savantoises, les populations indigènes, lesquelles n'ont pris aucune part au développement de la science moderne, et que ce n'est pas de l'effort de ces populations, de leur lutte libératrice, de leur combat concret pour la vie, la liberté et la culture qu'il attend le salut des pays tropicaux, mais du bon colonisateur. Attendu que la foi est formelle, à savoir que ce sont des éléments culturels préparés dans des régions extratropicales qu'ils assurent et assureront le progrès des régions tropicales vers une population nombreuse et une civilisation supérieure. J'ai dit qu'il y a des vues justes dans le livre de Monsieur Bourreau. Le milieu tropical et les sociétés indigènes, écrit-il, dressant le bilan de la colonisation, ont souffert de l'introduction de techniques mal adaptées, des corvées, du portage, du travail forcé, de l'esclavage, de la transplantation des travailleurs d'une région dans une autre, de changements subis dans du milieu biologique, de conditions spéciales nouvelles et moins favorables. Quel palmarès, tête du recteur, tête du ministre quand il dit cela. Notre gourou est lâché. Ça y est, il va tout dire. Il commence. Les pays chauds typiques se trouvent devant le dilemme suivant. Stagnation économique et sauvegarde des indigènes ou développement économique provisoire et régression des indigènes. Monsieur Gourou, c'est très grave. Je vous avertis solennellement qu'à ce jeu, c'est votre carrière qui se joue. Alors, notre gourou choisit de filer doux et d'omettre de préciser que si le dilemme existe, il n'existe que dans le cadre du régime existant. Que si cette antinomie constitue une loi d'airain, ce n'est que la loi d'airain du capitalisme colonialiste, donc d'une société non seulement périssable, mais déjà en voie de périr.
Géographie impure et combien séculière. S'il y a mieux, c'est du RP Temples, que l'on pille, que l'on torture au Congo, que le colonisateur belge fasse main basse sur toute richesse, qu'il tue toute liberté, qu'il opprime toute fierté, qu'il aille en paix, le révérend père Temples y consent. Mais attention, vous allez au Congo, respectez, je ne dis pas la propriété indigène, les grandes compagnies belges pourraient prendre ça pour une pierre dans leur jardin. Je ne dis pas la liberté des indigènes, les colons belges pourraient y voir propos subversifs. Je ne dis pas la patrie congolaise, le gouvernement belge risquant de prendre fort mal la chose. Je dis vous allez au Congo, respectez la philosophie bantoue. Il serait vraiment inouï, j'ouvre les guillemets, il serait vraiment inouï, écrit le RP Temple, que l'éducateur blanc s'obstine à tuer dans l'homme noir son esprit humain propre, cette seule réalité qui nous empêche de le considérer comme un être inférieur. Ce serait un crime de lèse-humanité de la part du colonisateur d'émanciper les races primitives de ce qui est valeureux, de ce qui constitue un noyau de vérité dans leur pensée traditionnelle, etc. Quelle générosité, mon père, et quel zèle! Or donc, apprenez que la pensée bantoue est essentiellement ontologique, que l'ontologie bantoue est fondée sur les notions véritablement essentielles de force vitale et de hiérarchie de force vitale, que pour le bantou, enfin, l'ordre ontologique qui définit le monde vient de Dieu et décrit divin doit être respecté. Admirable, tout le monde y gagne, grande compagnie, colons, gouvernement, sauf le bantou naturellement. La pensée des bantous étant ontologique, les bantous ne demandent de satisfaction que d'ordre ontologique. Salaire décent, logement confortable, nourriture. Ces bantous sont de pur esprit, vous dis-je. Ce qu'ils désirent avant tout et par-dessus tout, ce n'est pas l'amélioration de leur situation économique ou matérielle, mais bien la reconnaissance par le blanc et son respect pour leur dignité d'homme, pour leur pleine valeur humaine.
En somme, un coup de chapeau à la force vitale bantou, un clin d'œil à l'âme immortelle bantou. Et vous vous êtes quitte. Avouez que c'est à bon compte. Quant au gouvernement, de quoi se plaindrait-il? Puisque, note le RP Temples, avec une évidente satisfaction, je cite, « Les Bantous nous ont considérés, nous les Blancs, et ce, dès le premier contact, de leur point de vue possible, celui de leur philosophie bantoue. Et, je cite encore, « nous ont intégrés dans leur hiérarchie des êtres forces à un échelon fort élevé. » Autrement dit, obtenez qu'en tête de la hiérarchie des forces vitales bantoues prenne place le Blanc. Et le Belge singulièrement. Et plus singulièrement encore, Albert ou Léopold. Et le tour est joué. On obtiendra cette merveille. Le dieu bantou sera garant de l'ordre colonialiste belge et sera sacrilège tout bantou qui osera y porter la main. Pour ce qui est de Monsieur Manoni, ses considérations sur l'âme malgache et son livre méritent que de lui on fasse grand cas. Qu'on le suive pas à pas dans les tours et les tours de ses petits tours de passe-passe qui vous démontrera clair comme le jour que la colonisation est fondée en psychologie. Qu'il y a de par le monde des groupes d'hommes à temps, on ne sait comment, d'un complexe qu'il faut bien appeler complexe de la dépendance, que ces groupes sont psychologiquement faits pour être dépendants, qu'ils ont besoin de la dépendance, qu'ils la postulent, qu'ils la réclament, qu'ils l'exigent, que ce cas est celui de la plupart des peuples colonisés, des malgaches en particulier. Fin du racisme, fin du colonialisme. Ça sent trop son barbare. Monsieur Manoni a mieux. La psychanalyse. Agrémentée d'existentialisme, les résultats sont étonnants. Les lieux communs les plus éculés vous sont ressémelés et remis à neuf, les préjugés les plus absurdes expliqués et légitimisés, et magiquement, les vessies vous deviennent des lanternes. Écoutez-le plutôt. Je cite « Le destin de l'occidental rencontre l'obligation d'obéir au commandement. Tu quitteras ton père et ta mère. Cette obligation est incompréhensible pour le malgache. Tout Européen, à un moment de son développement, découvre en lui le désir de rompre avec ses liens de dépendance, de s'égaler à son père. Le malgache, jamais. Il ignore la rivalité avec l'autorité paternelle, la protestation virile, l'infériorité adlérienne, épreuves par lesquelles l'Européen doit passer et qui sont comme les formes civilisées, des rites d'initiation par lesquels on atteint à la virilité.
Que les subtilités du vocabulaire, que les nouveautés terminologiques ne vous effraient pas. Vous connaissez la rengaine. Les Noirs sont de grands enfants. On vous la prend, on vous l'habille, on vous l'emberlificote. On vous l'emberlificote, ok. Le résultat, c'est du Manoni. Encore une fois, rassurez-vous. Au départ, ça peut paraître un peu pénible, mais à l'arrivée, vous verrez, vous retrouverez tous vos bagages. Rien ne manquera, pas même le célèbre fardeau de l'homme blanc. Donc, voyez, par ces épreuves réservées à l'occidental, entre, c'est quoi, c'est des croches, hein, des crochets, quoi. Assez. On triomphe de la peur infantile de l'abandon et on acquiert liberté et autonomie, bien suprême et aussi fardeau de l'occidental. Et le malgache, direz-vous, race serve et mensongère, dirait Kipling. Monsieur Manoni, diagnostique. Je cite, le malgache n'essaye même pas d'imaginer pareille situation d'abandon. Il ne désire ni autonomie personnelle, ni libre responsabilité. Vous savez bien, voyons, ces Noirs n'imaginent même pas ce que c'est que la liberté. Ils ne la désirent pas, ils ne la revendiquent pas. Ce sont les meneurs blancs qui leur font ça dans la tête. Et si on l'a leur donné, ils ne sauraient qu'en faire. Si on fait remarquer à M. Manoni que les Malgaches se sont pourtant révoltés à plusieurs reprises depuis l'occupation française et dernièrement encore en 1947, M. Manoni, fidèle à ses prémices, vous expliquera qu'il s'agit là d'un comportement purement névrotique, d'une folie collective, d'un comportement amok. Que d'ailleurs, en la circonstance, il ne s'agissait pas pour les Malgaches de partir à la conquête de biens réels, mais d'une sécurité imaginaire. Ce qui implique évidemment que l'oppression dont ils se plaignent est une oppression imaginaire. Si nettement, si démentiellement imaginaire, qu'il n'est pas interdit de parler d'ingratitude monstrueuse selon le type classique du Fidjien qui brûle le séchoir du capitaine qui l'a guéri de ses blessures. Que, si vous faites la critique du colonialisme qui accule au désespoir... Attends, il y a un truc qui passe.
Oui.
Ok, j'attends. Okay. Que, oui. Si vous faites la critique du colonialisme qui accule au désespoir les populations les plus pacifiques, M. Manoni vous expliquera qu'après tout, le responsable, ce n'est pas le blanc colonialiste, mais les malgaches colonisés. Que diable ! Ils prenaient les blancs pour des dieux et attendaient d'eux tout ce qu'on attend de la divinité. Que si vous prouvez que le traitement appliqué à la névrose malgache a été un peu rude, M. Manoni, qui a réponse à tout, vous prouvera que les fameuses brutalités dont on parle ont été très largement exagérées, que nous sommes là en pleine fiction, névrotique, que les tortures étaient des tortures imaginaires, appliquées par des bourreaux imaginaires. Quant au gouvernement français, il se serait montré singulièrement modéré, puisqu'il s'est contenté d'arrêter les députés malgaches, alors qu'il aurait dû les sacrifier s'il avait voulu respecter les lois d'une saine psychologie.
Je n'exagère rien. C'est Monsieur Manoni qui parle. Je cite, suivant des chemins très classiques, ces malgaches transformaient leurs saints en martyrs, leurs sauveurs en boucs émissaires. Ils voulaient laver leurs péchés imaginaires dans le sang de leur propre dieu. Ils étaient prêts, même à ce prix, ou plutôt à ce prix seulement, à renverser encore une fois leur attitude. Un trait de cette psychologie dépendante semblerait être que, puisque nul ne peut avoir deux maîtres, il convient que l'un des deux soit sacrifié à l'autre. La partie la plus troublée des colonialistes du Tananarive comprenaient confusément l'essentiel de cette psychologie du sacrifice et réclamaient leurs victimes. Ils assiégeaient le haut commissariat, assurant que si on leur accordait le sang de quelques innocents, tout le monde serait satisfait. Cette attitude, humainement déshonorante, était fondée sur une perception assez juste, en gros, des troubles émotionnels que traversait la population des hauts plateaux. De là à absoudre les colonialistes altérés de sang, il n'y a évidemment qu'un pas. La soi-disant psychologie de M. Mannoni est aussi désintéressée, aussi libre que la géographie de M. Gourou ou la théologie missionnaire du R.P. Temples. Et voici la saisissante unité de tout cela. La persévérante tentative bourgeoise de ramener les problèmes les plus humains à des notions confortables et creuses. L'idée du complexe de dépendance chez Mannoni, l'idée ontologique chez le R.P. Temples, l'idée de tropicalité chez Gourou. Que devient la banque d'Indochine dans tout cela? Et la banque de Madagascar? Et la chicotte? Et l'impôt? Et la poignée de riz au Malgache ou au Naké? Et ces martyrs? Et ces innocents assassinés? Et cet argent sanglant qui s'amasse dans vos coffres, messieurs, volatilisé, disparu, confondu, méconnaissable royaume des palratiocitations? Mais il y a pour ces messieurs un malheur. C'est que l'entente bourgeois est de plus en plus rebelles à la finasserie et que leurs maîtres sont condamnés à se détourner d'eux de plus en plus pour applaudir de plus en plus d'autres moins subtils et plus brutaux. C'est très précisément cela qui donne une chance à M. Yves Florenne. Et en effet, voici sur le plateau du journal Le Monde, bien sagement rangé, ces petites offres de service. Aucune surprise possible. Tout garanti, efficacité prouvée, toute expérience faite et concluante, c'est d'un racisme qu'il s'agit. D'un racisme français, encore maigre les certes, mais prometteur. Oyez plutôt.
Je cite « Notre lectrice, une dame professeur qui a eu l'audace de contredire l'irascible M. Florenne, éprouve, en contemplant deux jeunes métisses, ses élèves, l'émotion de fierté que lui donne le sentiment d'une intégration croissante à notre famille française. Son émotion serait-elle la même si elle voyait à l'inverse la France s'intégrer dans la famille noire, ou jaune ou rouge, peu importe, c'est-à-dire se diluer, disparaître. C'est clair pour M. Yves Florenne, c'est le sang qui fait la France et les bases de la nation sont biologiques. Je cite. Son peuple, son génie sont faits d'un équilibre millénaire, vigoureux et délicat à la fois. Et certaines ruptures inquiétantes de cet équilibre coïncidant avec l'infusion massive et souvent hasardeuse de sang étranger qu'elle a dû subir depuis une trentaine d'années. En somme, le métissage, voilà les mieux. Plus de crise sociale, plus de crise économique, il n'y a plus que des crises raciales. Bien entendu, l'humanisme ne perd point ses droits, nous sommes en Occident, mais entendons-nous. Je cite. Ce n'est pas en se perdant dans l'univers humain avec son sang et son esprit que la France sera universelle, c'est en demeurant elle-même. Voilà où en est arrivée la bourgeoisie française, 5 ans après la défaite de Hitler. Et c'est en cela, précisément, que réside son châtiment historique. D'être condamné, y revenant comme par vice à remâcher le vomi d'Hitler. Car enfin, M. Yves Florenne en était encore à fignoler des romans paysans, des drames de la terre, des histoires de mauvais œil, quand l'œil autrement mauvais qu'un agrastéro de Gitatura, Hitler annonçait. Le but suprême de l'État-peuple est de conserver les éléments originaires de la race qui, en répandant la culture, crée la beauté et la dignité d'une humanité supérieure. Cette filiation, M. Florenne la connaît. Et une garde d'en être gêné, fort bien, c'est son droit.
Comme ce n'est pas notre droit de nous en indigner. Car enfin, il faut en prendre son parti et se dire, une fois pour toutes, que la bourgeoisie est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare. Que c'est une loi implacable que toute classe décadente se voit transformée en réceptacle où affluent toutes les eaux salées de l'histoire. Que c'est une loi universelle que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement, omnilatéralement, et que c'est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur chant du cygne. Je peux faire deux.
Voilà. Puis je me disais, on fait peut-être une petite pause.
Ouais.
On en parle un peu.
Oui, je suis d'accord, sachant qu'il est déjà 35, donc ça peut être pas mal.
Ouais. Il y aura peut-être une troisième partie.
Mais franchement, limite. Hein.
Parce que là,
ouais.
Dans les mots, là, c'est.
C'est beaucoup de mots.
Ouais, beaucoup de mots.
En effet.
Mm-hmm.
Mais enfin, c'est moi qui dis en effet avec un accent chinois.
J'ai compris, merci.
Merci. Écoute, y a-t-il des choses qui t'ont marqué ou que tu aimerais aborder dans cette partie, dans cette quatrième partie?
C'est vrai que j'ai pas forcément tout capté dans la partie, genre, je pense que la pensée bantou est essentiellement ontologique.
Ouais, alors j'avoue que je me suis dit, comme avec ton expérience de philo, j'avais un peu oublié ce que c'était ontologique.
Bah, le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs différentes définitions qui peuvent être possibles. Mais en soi, c'est... Bah, l'ontologie, c'est genre la...
La demande du pourquoi, c'est ça ?
Ouais, enfin, c'est, tu vois, l'étude de l'être, genre, en soi.
Ah oui.
Et donc, c'est un peu relatif à ouais, l'être en général, quoi. Mais donc, ça m'aide pas trop, tu vois. C'est ça qui m'aide. Ça
ouais.
M'aide pas. Forcément. Attends, je cherche la définition officielle.
Oui, mais peut-être par rapport au... je sais plus comment il s'appelait, mais... Pas Manoni et pas Gourou, mais je sais plus. Ah, RP Temples. Non,
je ne sais plus. Typologie. Ouais. Forcément, Larousse. Depuis quand Larousse, il y a des cookies?
Ah, mais ouais, hein, tous les dictionnaires, hein.
Argument ontologique, preuve ontologique de l'existence de Dieu. Ok, non, c'est pas ça.
Ok, bah si, du coup.
Ah si. Argument formulé pour la première fois par Saint Anselme, repris par Descartes, puis refuté par Kant, selon lequel du concept d'être parfait, la raison conclut à l'existence de cet être.
Donc là c'est l'idée de R.P. Temples, qui est un peu religieuse.
Donc si je reviens au texte, vu. Ok. Parce qu'en fait, il dit que... Mais il dit qu'elle est vraiment... C'est le belge qui dit qu'elle est essentiellement ontologique, en fait. Ou c'est Césaire qui dit qu'elle est essentiellement ontologique.
C'est le belge.
Oui, donc en fait... Enfin, tu vois, c'est un peu comme... ça me fait penser un peu à la manière dont... Les pays occidentaux parlent de l'islam, enfin, tu vois, de la religion musulmane, parce que du coup, c'est un peu cette. Enfin, tu vois, tout est super spiritual, très traditionnel. Mais en fait, c'est vraiment juste genre. Enfin, forcément, il y a un peu de vérité, mais enfin, tu vois, c'est un mythe utilisé pour justement reproduire enfin, des actes de colonisation, enfin tu vois, en mode genre nous on est développé, on est, enfin tu vois,
oui,
on est
plus loin, un rapport de force.
Voilà, ou voilà, genre essayer de placer l'autre dans une sorte de position, ouais, beaucoup plus genre, enfin tu vois, genre primitive en soi, tu vois, enfin
oui.
Genre parce que si la spiritualité en soi est considérée comme pas l'ennemi du progrès, tu vois, mais en termes de développement les pays qui sont beaucoup plus spirituels et donc, par exemple, ouais, essentiellement ontologiques, comme il dit, dans cette expression-là, tu vois, ils sont vus comme... Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu peux m'essayer
de... Oui. Oui. Non, je vois complètement. Désolé, j'essaie de voir s'il y avait un truc que tu voulais dire de particulier. Mais oui. Ah non, c'est BP. C'est BP... Temples, je crois. Ou alors, il y en a plusieurs. Bref, il y en a plusieurs.
Non, c'est
parfait. Ok. Oui, et là, je retrouve un paragraphe.
En fait, je te demandais genre, d'expliquer ce que je voulais dire, en fait.
Ah. Bah, t'es en train de dire qu'il y a un rapport de force qui est instauré parce que la spiritualité, c'est vu comme un peu inférieur parce que c'est pas matériel et donc, c'est une idée... C'est une idée moindre que les idées occidentales ramenées par le christianisme, c'est ça?
Oui.
Ouais, bah, je suis assez d'accord. Et là, il disait aussi alors, sa philosophie bantou, vaseuse et méphitique à souhait, mais découverte de manière très opportune, comme par d'autres, l'hindouisme, pour faire pièce au matérialisme communiste. Qui menace, paraît-il, de faire des Noirs des vagabonds moraux. Du coup, c'est genre c'est aussi assimiler l'être colonialisé à quelqu'un d'immoral juste parce qu'il n'a pas la même philosophie de ou spiritualité que lui, que lui en tant que missionnaire belge.
Oui.
Donc voilà, et le fait que ça s'applique avec toute religion indienne en fait. Mais ouais. Moi,
c'est encore une fois des exemples.
Alors, moi, ce qui m'avait marqué, ça n'a un peu, enfin, ça n'a pas autant de rapport, c'était à la fin de la page 23 et au début de la page 24, un peu. En gros, enfin, c'est le dernier paragraphe de la page 23. En gros, ils disent. Ah non. Ou c'est peut-être celle de. Non, c'est la fin de la page 24, début de la page 25. En gros, il dit. Le destin de l'occidental rencontre l'obligation d'obéir au commandement, tu quitteras ton père et ta mère, etc. En gros, que l'européen quitte et devient indépendant comme par rituel, comme par rite de passage, et rite d'initiation, il dit, à la virilité. Et je trouve ça intéressant, cette genre, définition de la masculinité occidentale versus non occidentale. Où en Occident, c'est un peu de protester son père quant à la culture malgache.
Une culture indépendante.
C'est ça, ouais, indépendance. Ouais, voilà, individualiste, t'as dit.
Ouais.
Ouais, ouais. C'est ça. Et, c'est normal, mais c'est des choses qu'on entend encore beaucoup parler actuellement. Ouais. Enfin, je trouve que j'ai déjà eu beaucoup cette conversation où. En Europe, enfin, par exemple, j'ai des amis qui venaient des Philippines qui n'allaient pas quitter la maison avant 25, mais probablement plus 30, ouais, 32 ans. Et c'est normal parce qu'en fait, tout le monde vit dans la même maison de toute façon.
Ouais. C'est même quand tu penses aux cultures asiatiques, tu vois.
Bah ouais, ouais, mais du coup, Philippines, oui, oui, complètement. Ouais. Enfin, dans ma tête, avec mes amis, par exemple, c'est cet exemple que j'avais en tête, mais ouais, genre, c'est des. En fait, c'est beaucoup plus présent dans le reste du monde que. En Occident, enfin, en termes de territoire, c'est beaucoup plus présent dans la région, tu vois,
ouais.
Par rapport à l'Europe et l'Occident.
C'est sûr.
Voilà, je trouve ça intéressant à noter.
Bon, il nous reste alors 15 minutes. Est-ce qu'on peut faire la partie 5 qui fait. Ouais, ça fait 9 pages, 8 pages.
Écoute, de toute façon, ce qu'on ne fera pas, on fera la semaine prochaine.
Ouais,
et genre, on remettra le contexte de ce qu'on a fait avant.
Exactement. Voilà. Tu continues ou continues ?
Vas-y, vas-y.
Ok.
Au fait, le dossier est accablant. Partie 5, au fait, le dossier est accablant.
La meuf a dit vas-y et après elle le fait.
Ah non, vas-y, je le fais.
Oui, bah genre... oui, non, mais j'allais dire la deuxième partie de la phrase, peut-être, tu vois.
Ouais, j'avoue.
Et vas-y.
Sorry. Ouais. Je le fais, du coup. Ok. Au fait, le dossier est accablant. Un rude animal qui, par l'élémentaire exercice de sa vitalité, répand le sang et sème la mort. On se souvient qu'historiquement, c'est sous cette forme d'archétype féroce que se manifesta à la conscience et à l'esprit des meilleurs, la révélation de la société capitaliste. L'animal s'est anémié depuis. Son poil s'est fait rare, son cuir décati, mais la férocité est restée. Tout juste mêlée de sadisme. Hitler à Bondo, Rosenberg à Bondo. Bondo, Junger et les autres, SS à Bondo. Mais ceci, je cite, tout en ce monde sut le crime. Le journal, la muraille et le visage de l'homme. C'est du Baudelaire, et Hitler n'était pas né. Preuve que le mal vient de plus loin. Et Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, à ce sujet, il est grand temps de dissiper l'atmosphère de scandale qui a été créée autour des chants de mal d'aurore. Monstruosité, aérolithe littéraire, délire d'une imagination malade, allons donc, comme c'est commode. La vérité est que Lautréamont n'a eu qu'à regarder, les yeux dans les yeux, l'homme de fer forgé par la société capitaliste pour appréhender le monstre quotidien, son héros. Nul ne nie la véracité de Balzac. Mais attention, faites vautrin, retour des pays chauds, donnez-lui les ailes de l'archange et les frissons du paludisme. Faites-le accompagner sur le pavé parisien. d'une escorte de vampires uruguayens et de fourmis tambocha, et vous aurez mal d'aurore.
Variante du décor, mais c'est bien du même monde, c'est bien du même homme qu'il s'agit, dur, inflexible, sans scrupules amateur, comme pas un, de la viande d'autrui. Pour ouvrir ici une parenthèse dans ma parenthèse, je crois qu'un jour viendra où tous les éléments réunis, toutes les sources dépouillées, toutes les circonstances de l'œuvre élucidées, il sera possible de donner des chants de mal d'aurore, une interprétation matérialiste et historique, qui fera apparaître de cette épopée forcenée un aspect par trop méconnu, celui d'une implacable dénonciation d'une forme très précise de société, telle qu'elle ne pouvait échapper au plus aigu des regards vers l'année 1865. Auparavant, bien entendu, il aura fallu débroussailler la route des commentaires occultistes et métaphysiques qui l'offusquent, redonner son importance à telle strophe négligée, celle par exemple « Entre toutes, étrange de la mine de poux où on acceptera de voir ni plus ni moins que la dénonciation du pouvoir maléfique de l'or et de la tessorisation », restituer sa vraie place à l'admirable épisode de l'omnibus et consentir à y trouver très platement ce qui y est, savoir la peinture à peine allégorique d'une société où les privilégiés confortablement assis refusent de se serrer pour faire place aux nouvelles arrivants, et soit dit en passant, qui recueille l'enfant durement rejeté, le peuple, ici représenté par le chiffonnier de Baudelaire. Et donc, je devine une citation de Baudelaire. Et sans prendre souci des mouchards, ses sujets épanchent tout son cœur en glorieux projet. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes. Alors n'est-il pas vrai, on comprendra que l'ennemi dont l'Autréamont a fait l'ennemi, le créateur anthropophage et desserveleur, le sadique juché sur un trône formé d'excréments humains et d'or, l'hypocrite, le débauché, le fainéant qui mange le pain des autres, et que l'on retrouve de temps en temps ivre mort comme une punaise qui a mâché pendant la nuit 3 tonneaux de sang, on comprendra que ce créateur-là, ce n'est pas derrière le nuage qu'il faut aller le chercher, mais que nous avons plus de chances de le trouver dans l'annuaire défaussé et dans quelques confortables conseils d'administration.
Mais laissons cela. Les moralistes n'y peuvent rien. La bourgeoisie, en tant que classe, est condamnée, qu'on le veuille ou non, à prendre en charge toute la barbarie de l'histoire, les tortures du Moyen-Âge comme l'Inquisition, la raison d'État comme le bellicisme, le racisme comme l'esclavagisme, bref, tout ce contre quoi elle a protesté, et en termes inoubliables, du temps que, classe à l'attaque, elle incarnait le progrès humain. Les moralistes n'y peuvent rien. Il y a une loi de déshumanisation progressive en vertu de quoi, désormais, à l'ordre du jour de la bourgeoisie, il ne peut y avoir que maintenant que la violence, la corruption et la barbarie. J'allais oublier la haine, le mensonge, la suffisance. J'allais oublier M. Roger Caillois. Or donc, M. Caillois, à qui mission a été donnée de toute éternité, enseigner à un siècle lâche et débrailler la rigueur de la pensée et la tenue du style, M. Caillois donc vient d'éprouver une grande colère. Le motif ? La grande trahison de l'ethnographie occidentale, laquelle, depuis quelque temps, avec une détérioration déplorable du sens de ses responsabilités, s'ingénie à mettre en doute la supériorité omnilatérale de la civilisation occidentale sur les civilisations exotiques. Du coup, M. Caillois entre en campagne. C'est la vertu de l'Europe d'ainsi susciter, au moment le plus critique, des héroïsmes salvateurs. On est impardonnable de ne pas se souvenir de M. Massy, lequel, vers 1927, se croisa pour la défense de l'Occident.
On veut s'assurer qu'un meilleur sort sera réservé à M. Caillois. Caillois, c'est bizarre. Ouais. Défendre la même cause sacrée, transforme sa plume en bonne dague de Tolède. Que disait M. Massy ? Il déplorait que, je cite, le destin de la civilisation d'Occident, le destin de l'homme tout court, fussent aujourd'hui menacés, que l'on s'efforçât de toutes parts de faire appel à nos angoisses, de contester les titres de notre culture, de mettre en question l'essentiel de notre avoir. Et M. Massy faisait serment de partir en guerre contre ces désastreux prophètes. M. Caillois n'identifie pas autrement l'ennemi. Ce sont ces intellectuels européens qui, par une déception et une rancœur exceptionnellement aiguës, s'acharnent depuis une cinquantaine d'années à renier les divers idéaux de leur culture et qui de ce fait entretiennent notamment en Europe un malaise tenace. C'est à ce malaise, à cette inquiétude que M. Caillois, pour sa part, entend mettre fin. C'est ce rapport hiérarchique que l'auteur de l'article, un certain M. Piron, reproche à l'ethnographie de détruire. Comme M. Caillois, il s'en prend à Michel Léry et Lévi-Strauss. Au premier, il fait reproche d'avoir écrit dans sa brochure la question raciale devant la science moderne. Je cite, « Il est puéril de vouloir hiérarchiser la culture. » Au second, de s'attaquer au faux évolutionnisme, en ce qu'il tente de supprimer la diversité des cultures, en le considérant comme des stades d'un développement unique qui, partant d'un même point, doit les faire converger vers le même but. Un sort particulier est fait à Mircea Eliade pour avoir osé écrire la phrase suivante. Devant lui, l'Européen a maintenant non plus des indigènes, mais des interlocuteurs. Il est bon qu'on sache comment amorcer le dialogue. Il est indispensable de reconnaître qu'il n'existe plus de solution de continuité entre le monde primitif, entre guillemets, ou arriéré, idem, et l'Occident moderne.
Enfin, pour une fois, c'est un excès d'égalitarisme qui est reproché à la pensée américaine. Otto Kleinberg, professeur de psychologie à l'Université de Columbia, ayant affirmé « C'est une erreur, je cite, « c'est une erreur capitale de considérer les autres cultures comme inférieures à la nôtre, simplement parce qu'elles sont différentes. » Décidément, M. Caillois est en bonne compagnie. Et de fait, jamais, depuis l'anglais de l'époque victorienne, personne ne promena à travers l'histoire une bonne conscience plus sereine et moins ennuagée de doute. Sa doctrine, elle a le mérite d'être simple. Que l'Occident a inventé la science, que seul l'Occident sait penser, qu'aux limites du monde occidental commence le ténébreux royaume de la pensée primitive, laquelle, dominée par la notion de participation, incapable de logique, est le type même de la fausse pensée. Là-dessus, on sursaute. On objecte à M. Caillois, qui est la fameuse loi de participation inventée par Lévi-Bruhl. Lévi-Bruhl lui-même l'a renié. Qu'au soir de sa vie, il a proclamé à la face du monde avoir eu tort, de vouloir définir un caractère propre à la mentalité primitive en tant que logique. Qu'il avait, au contraire, acquis la conviction que, je cite, « ces esprits ne diffèrent point d'une autre de point de vue logique ». Donc, ne supporte pas plus que nous une contradiction formelle. Donc, rejette comme nous, par une sorte de réflexe mental, ce qui est logiquement impossible. Fin de citation. Peine perdue. M. Caillois tient la rectification pour nulle et non avenue. Pour M. Caillois, le véritable Lévi-Bruhl ne peut être que le Lévi-Bruhl ou le primitif extravague. Il reste, bien sûr, quelques menus faits qui résistent. Savoir l'invention de l'arithmétique et de la géométrie par les Égyptiens. Savoir la découverte de l'astronomie par les Assyriens. Savoir la naissance de la chimie chez les Arabes. Savoir l'apparition du rationalisme au sein de l'islam à une époque où la pensée occidentale avait l'allure furieusement prélogique. Mais ces détails impertinents, M. Caillois a vite fait de les rabrouer. Le principe était formel. Je cite, qu'une découverte qui ne rentre pas dans un ensemble n'est précisément qu'un détail, c'est-à-dire un rien négligeable.
On pense bien qu'ainsi lancé, M. Caillois ne s'arrête pas en si beau chemin. Après avoir annexé la science, le voyeur qui revendique la morale. Pensez donc, M. Caillois n'a jamais mangé personne, M. Caillois n'a jamais songé à achever un infirme, M. Caillois jamais l'idée ne lui est venue d'abréger les jours de ses vieux parents. Eh bien, là voilà la supériorité de l'Occident. Cette discipline de vie qui s'efforce d'obtenir que la personne humaine soit suffisamment respectée pour qu'on ne trouve pas normal de supprimer les vieillards et les infirmes. La conclusion s'impose face aux anthropophages, aux dépaisseurs et autres comprachicos. L'Europe, l'Occident, incarne le respect de la dignité humaine. Mais passons et pressons, crainte que notre pensée ne s'égare vers Alger, le Maroc et autres lieux où, à l'heure même où j'écris ceci, tant de vaillants fils de l'Occident, dans le clair-obscur des cachots, prodiguent à leurs frères inférieurs d'Afrique, avec tant d'inlassable soin, ces authentiques marques de respect de la dignité humaine qui s'appellent en termes techniques la baignoire, l'électricité, le goulot de bouteille. Pressons. M. Caillois n'est pas encore au bout de son palmarès. Après la supériorité scientifique et la supériorité morale, la supériorité religieuse. Ici, M. Caillois n'a garde de se laisser abuser par le vain prestige de l'Orient. L'Asie, mère des dieux peut-être. En tout cas, l'Europe, maîtresse des rites. Et voilà, voyez la merveille. D'un côté, hors d'Europe, des cérémonies type vaudou, avec tout ce qu'elles comportent, de mascarades burlesques, de frénésie collective, d'alcoolisme débrayé, d'exploitation grossière d'une naïve ferveur, et de l'autre, côté Europe, ces valeurs authentiques que célébrait déjà Chateaubriand dans le génie du christianisme, les dogmes et les mystères de la religion catholique, sa liturgie, le symbolisme de ses sculpteurs et la gloire du plein chant. Enfin, ultime motif de satisfaction.
Gobineau disait « Il n'est d'histoire que blanche ». Monsieur Caillois, à son tour, constate « Il n'est d'ethnographie que blanche ». C'est l'Occident qui fait l'ethnographie des autres, et non les autres qui font l'ethnographie de l'Occident. Intense motif de jubilation, n'est-il pas vrai ? Et pas une minute, il ne vient à l'esprit de Monsieur Caillois que les musées dont il fait vanité, il eût mieux valu, à tout prendre, n'avoir pas eu besoin de les ouvrir, que l'Europe eût mieux fait de tolérer à côté d'elle, bien vivante, dynamique et prospère, entière et non mutilée, les civilisations extra-européennes, qu'il eût mieux valu de les laisser se développer et s'accomplir que de nous en donner à admirer, dûment étiquetés, les membres épars, les membres morts, qu'en demeurant, le musée lui-même n'est rien, qu'il ne veut rien dire, qu'il ne peut rien dire, là où la béate satisfaction de soi-même pourrit les yeux, là où le secret mépris des autres dessèche les cœurs, là où, avoué ou non, le racisme tarit la sympathie, qu'il ne veut rien dire, s'il n'est pas destiné qu'à fournir aux délices de l'amour propre, qu'après tout, l'honnêteté contemporain de Saint-Louis, qui combattait mais respectait l'islam, avait meilleure chance de le connaître que nos contemporains, même frottés de littérature ethnographique, qui le méprisent. Voilà. Non jamais dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine. La conclusion de tout cela, soyons justes, Monsieur Caillois est modéré. Ayant rétabli la supériorité dans tous les domaines de l'Occident, ayant ainsi rétabli une saine et précieuse hiérarchie, Monsieur Caillois donne une preuve immédiate de cette supériorité en concluant à n'exterminer que personne. Avec lui, les Noirs sont sûrs de n'être pas lynchés, les Juifs de ne pas alimenter de nouveaux bûcheurs. Seulement, attention, il importe qu'il soit bien entendu que cette tolérance, Noirs, Juifs, Australiens, la doivent, non à leur mérite respectif, mais à la magnanimité de Monsieur Caillois, non à un diktat de la science, laquelle ne saurait offrir de vérité qu'éphémère, mais à un décret de la conscience de Monsieur Caillois, laquelle ne saurait qu'être qu'absolue. Que cette tolérance n'est conditionnée par rien, garantie par rien, si ce n'est parce que Monsieur Caillois se doit à lui-même.
Peut-être la science commandera-t-elle un jour de débarrasser la route de l'humanité de ses poids lourds, de ses impedimenta, que constituent des cultures arriérées et des peuples attardés. Nous sommes assurés qu'à l'instant fatal, la conscience de Monsieur Caillois, qui de bonne conscience se mue aussitôt en belle conscience, arrêtera le bras meurtrier et prononcera le salut 6. Ce qui nous vaut la note succulente que voici. Pour moi, je cite, « Pour moi, la question de l'égalité des races, des peuples ou des cultures n'a de sens que s'il s'agit d'une égalité de droit, non d'une égalité de fait. De la même manière, un aveugle, un mutilé, un malade, un idiot, un ignorant, un pauvre ne saurait être plus gentil pour les mondes occidentaux, ne sont pas respectivement égaux, au sens matériel du mot, à un homme fort, clairvoyant, complet, bien portant, intelligent, cultivé ou riche. Ceux-ci ont de plus grandes capacités qui d'ailleurs ne leur donnent pas plus de droits, mais seulement plus de devoirs. De même, il existe actuellement, que les causes en soient biologiques ou historiques, des différences de niveau, de puissance et de valeur entre différentes cultures. Elles entraînent une égalité de fait. Elle ne justifie aucunement une égalité de droit en faveur des peuples dits supérieurs, comme le voudrait le racisme. Elle leur confère plutôt des charges supplémentaires et une responsabilité accrue. Responsabilité accrue, quoi donc, sinon celle de diriger le monde ? Charge accrue, quoi donc, sinon la charge du monde ? Et Caillois Atlas, de s'arc-bouter philanthropiquement dans la poussière et de recharger ses robustes épaules de l'inévitable fardeau de l'homme blanc. On m'excusera d'avoir si longuement parlé de M. Caillois. Ce n'est pas que je surestime à quelque degré que ce soit la valeur intrinsèque de sa philosophie, entre guillemets, on n'aura plus jugé du sérieux d'une pensée qui, tout en se revendiquant de l'esprit de rigueur, sacrifie si complaisement aux préjugés et barbote avec une telle volupté dans les lieux communs, mais elle méritait d'être signalée parce que significative. De quoi ? De ceci que jamais l'Occident, dans le temps même où il se gargarise le plus du mot, n'a été plus, élo- plus éloignés de pouvoir assumer les exigences d'un humanisme vrai, de pouvoir vivre l'humanisme vrai, l'humanisme à la mesure du monde. Voilà, exactement à l'heure.
Waouh, c'est incroyable.
C'est magnifique. On fera peut-être du coup la commentaire. Oula, tu vois, là ça se perd. Oula.
Ouais, là quand il n'y a plus de texte, c'est compliqué.
Ouais, le commentaire la prochaine fois du coup.
En vrai, oui.
Et comme ça, on fera commentaire de ça, partie 6 et commentaire. Et on fera genre un commentaire plus développé. On se préparera un peu mieux.
Ouais, ouais.
Le commentaire développé. Je suis
d'accord. Comme il sera plus court du coup.
Exactement, de toute, enfin de la partie, enfin du texte entier.
De la dernière, oui, oui, un peu conclusion.
Exactement.
Et je pense que ce serait sympa de faire, enfin c'est sympa de faire des trucs en plusieurs parties comme ça.
Exactement.
Comme ça.
Ouais.
On est plus approfondi, on n'est pas en one shot. J'aime bien.
Ouais. C'est même là, j'ai l'impression qu'on lit trop vite, tu vois, donc.
Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais, mais au moins, bah on doit pas découvrir tout un texte. Et le conclure ou quoi, enfin en une heure, tu vois, ou une heure et demie, mais ouais.
Donc voilà, conclusion la prochaine fois. Désolé, c'était supposé être partie 2 et la fin, mais c'est partie 2 et ce n'est pas la fin.
Et ce n'est pas la fin.
Donc voilà, merci.
Il y aura une partie 3.
C'était Radio Mousse avec DJ Croc et
DJ Poisson.
Et on vous dit à très bientôt.
À bientôt.
Et c'était le discours sur le colonialisme.
Oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à mossradio@proton.me par email ou alors sur notre chat, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, sur le chat de notre site sur lequel vous êtes actuellement en train de regarder ou d'écouter cette émission.
Exactement. Bah, merci beaucoup, DJ Poisson, pour cette outro.
Et on vous dit... Incroyable. Magnifique.